Bertrand.
Couture.
C'est là qu'ils veulent pas rien savoir de ça, là, ben allez vous en.
Dans le mid.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Radio. X.
Ouais, soyez patients là, sur la rive sud parce qu'il y a beaucoup de trafic.
Ah ouais, la 73 direction nord, c'est depuis rue Beaulieu encore. Puis on a eu un accident un peu plus tôt sur le pont La Porte direction nord à la sortie du pont près de Champlain. Là. Ça semble être établi, mais mal est fait. Quoique 20, autoroute 20 est-ouest, ça roule quand même pas si mal. Mais la 73, sous le temps le Dawa.
On oublie ça.
Exact.
Écoutez Radio X.
Voilà.
Notre chroniqueur, il est là?
Oui. Yes.
Chronique politique avec Rodolphe Osny.
Rodolphe, comment vas-tu?
Bonjour Pierre, bonjour Nick, bonjour Québec. Je vais bien. J'ai écouté la première partie du discours de M. Trump qui est en train de parler en ce moment à l'ONU à New York.
Et là, ben, ça tire un peu partout. Je vois les faces longues. Là. Je voyais l'ambassadeur d'Israël aussi. Là,
donc... Bon, ben, écoute, tout d'abord, il faut savoir que l'escalier automatique là, mécanisé qui amenait le président s'est arrêté. Alors, il a bien critiqué ça en arrivant au podium en disant « L'ONU m'a rien donné. D'ailleurs, votre escalator ne fonctionne pas. Son téléprompteur aussi ne fonctionnait pas au début de son discours. Il l'a aussi souligné. Donc ça a été les premiers mots de Donald Trump ou les premières phrases de Donald Trump pour son discours de l'ONU, à critiquer l'ONU sur ses infrastructures. Il a même parlé que lui, à son époque, il aurait rénové l'ONU pour beaucoup moins et que finalement, ils ont choisi quelqu'un d'autre. Ça a coûté beaucoup plus cher et avec lui, il y aurait eu du marbre partout dans l'ONU et il n'y en a pas actuellement.
Ouais, mais moi, pour être allé à ce bâtiment-là, New York, là, c'est vrai que c'est un bâtiment qui n'est pas désuet, mais qui est magané. Tu as l'impression de rentrer dans les années 80. Là. Et je sais que les États-Unis donnent beaucoup d'argent à l'ONU. C'est peut-être une flèche, là, on comprend que
ben oui.
C'est la flèche de Trump. Mais quand même, lui... Pour être allé aussi à son building de New York, Trump Plaza, là, il y a du marbre là. Là. C'est, les toilettes, là, c'est tout en or. Là.
Ben oui.
Donc, c'est... Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, reconnaissance de Palestine, symbolique. Là, je voyais que ça commence à s'écraser. Hier, les gens en Palestine n'avaient pas l'air d'y croire bien. Là.
Ben oui, c'est sûr que c'est purement symbolique pour l'instant, parce que quand on dit qu'on reconnaît l'État de la Palestine, il faut se poser la question, c'est quoi l'État de la Palestine? Un État, normalement, devrait avoir des frontières. Pour l'instant, les frontières ne sont pas encore négociées. Deuxièmement, il faut que normalement les États se reconnaissent l'un l'autre. Pour l'instant, est-ce que la Palestine ou reconnaît Israël, Israël reconnaît la Palestine? On n'est pas rendu là. Est-ce qu'il y a eu des élections, même en Cisjordanie, il n'y en a pas eu depuis plus d'une dizaine d'années. On a un président de l'autorité palestinienne qui a plus de 80 ans. Donc, est-ce que c'est une démocratie? Non. Donc, pour l'instant, c'est vrai que c'est une reconnaissance très, très symbolique qui a eu lieu à la fois par le Canada, l'Australie, l'Angleterre. Le président Macron, hier, a aussi pris la parole à la tribune de l'ONU. Donc, à voir qu'est-ce qui va se passer, parce que normalement, on négocie d'abord et surtout, il n'y a toujours pas la négociation ou la fin des otages. Il y a toujours des otages qui sont détenus par le Hamas suite à l'attaque du 7 octobre. D'ailleurs, le président Trump vient d'en parler il y a quelques minutes à la tribune en disant « Écoutez, il faut qu'il y ait comme ça la libération des otages avant comme ça de reconnaître l'État de Palestine. » Monsieur Trump a même utilisé le terme « Vous récompensez le Hamas pour les exactions qui ont eu lieu le 7 octobre. » Donc, on en est là.
Mais quoi penser du Canada qui reconnaît un État de la Palestine? C'est correct, là, c'est bien correct, on comprend tout ça, mais en pleine négociation... tarifaire et de libre-échange avec les Américains. On sait que ça emmerde beaucoup les Américains, ça. Est-ce que le timing était bon ou on aurait pas à temps de se garder une petite gêne?
Ben, premièrement, le fait qu'on reconnaît tout d'abord le Canada, puis ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on a toujours cette position qu'on veut une solution à deux États. Donc pour ça, c'est pas nouveau, mais on attendait de reconnaître un État de Palestine avant qu'il y ait une reconnaissance mutuelle qui a surtout une négociation de paix. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, on dirait qu'on n'est pas là pour reconnaître l'État de Palestine. On est plus là pour punir Israël. Et quand je dis punir Israël, je parle vraiment de punir le gouvernement Netanyahou. Je pense que c'est vraiment ça qu'il y a un effort qu'il y a eu de la France, de l'Angleterre, de l'Australie. Et c'est de mettre de la pression sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou, lui personnellement, plus que dire « OK, on va sauver les Palestiniens » parce qu'actuellement, c'est très, comme on vient de le dire, Pierre, c'est très symbolique. Donc, je pense que c'est plus ça. Est-ce que le Canada a informé les États-Unis avant de sa position? Je ne sais pas. On va voir qu'est-ce que le président américain va dire sur la reconnaissance. Pour l'instant, il n'était pas encore arrivé à cet élément.
Donc, on va suivre ce dossier-là du côté de New York, parce que ça va évoluer. Là. Il va y avoir des... Je pense que Macron était là hier, ou en tout cas, il y a des chefs d'État un peu partout là, dans le monde qui vont être là.
Zelensky est là. Le Brésil était juste là à parler juste avant le président américain. Donc oui, il y a beaucoup de chefs d'État. On va voir les réunions bilatérales ce soir. Le président Trump reçoit normalement les principaux chefs d'État et chefs de gouvernement en marge du sommet de l'ONU. C'est toujours une réception américaine. Donc, on va voir aussi les réunions bilatérales qui ont lieu en marge de cette réunion.
Voilà. Alors, plus près de chez nous, François Legault. François Legault a passé une dure semaine. Et là, ben, il y a des députés qui quittent, en fait, des anciens ministres frustrés qui quittent les rangs de la CAQ. Est-ce qu'il y aura d'autres départs? Comment on peut voir la suite des choses pour François Legault et la CAQ?
Oui, ça va être la grande question parce que, bon, on est rendu à... Il y avait eu Yoris Chassin, ça, c'était il y a un an. Ensuite, il y a eu Pierre Dufour qui, lui, a été exclu du Conseil des ministres parce qu'il avait dit haut et fort qu'il devait avoir un ministre pour sa région. Et on a maintenant Maïté Blanchette-Vézina qui a quitté la CAQ la semaine dernière, celle qui n'a pas été mise au Conseil des ministres et qui a été la première ouvertement qui a appelé à ce que M. Legault revoie son leadership. Ce qui est intéressant, c'est que M. Legault, avant, on ne l'entendait pas beaucoup. Il y avait eu toute une stratégie de communication de ne pas trop le sortir. Oui. Là, depuis les problèmes, on le sort plus. Il a fait tout le monde en parle. Il a fait une tournée médiatique. Moi, je me pose la question maintenant, ces prochaines journées, prochaines semaines, c'est quoi la stratégie médiatique? Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des gros événements. Il doit aller à la Fédération des municipalités cette semaine. Il y a le congrès de la CAQ cette fin de semaine aussi. Il y a une rencontre de son caucus. Donc, la question, c'est quelle stratégie médiatique va adopter M. Legault? Est-ce qu'il va être plus présent, moins présent? Pour l'instant, on ne le sait pas. Puis oui, la grosse question, est-ce qu'il y a d'autres députés qui réfléchissent à leur avenir, qui vont dire la fameuse phrase « je ne veux pas me représenter parce que j'ai envie de voir plus ma famille » ou est-ce qu'il y en a qui sont en train de parler avec le PQ ou le Parti libéral pour peut-être se négocier un siège dans ce parti-là à la prochaine élection?
Ouais, c'est le supplice d'Agoutte pour Legault parce que bon, tu as des députés à l'interne qui sortent tranquillement un après l'autre, puis qui quitte le navire. Lui, ça va voir les municipalités cette semaine. Il n'y a pas une scène, là. Je veux dire, les municipalités veulent de l'argent. Le déficit du Québec, on parle de 12, 13, 14 milliards, on ne sait plus trop où ça va aboutir. Pas une scène. Puis tu as les médecins en plus qui réclament aussi des augmentations en égo. Tout ça, là, c'est pas des bons... comment on dit ça, là? Des bonnes pognes pour lui, là.
Oui, surtout, Pierre, il faut se souvenir que la dernière fois que François Legault a parlé des maires, il avait dit « c'est facile de quêter ».
Oui.
Puis on avait dit « bon, ben c'est ça, les maires quêteux ». Donc, on va voir comment il va aller, exactement comme tu viens de le dire, il va aller les poches vides à la Fédération de la municipalité faire un discours. Les autres chefs de parti, en passant, vont y aller aussi. Mais oui, ça va être intéressant de voir François Legault. Est-ce que quelqu'un va lui remettre ses paroles quand il avait dit « c'est facile de quêter quand t'es maire ».
Oui, puis t'as Geneviève Guilbeault aussi qui s'était pincée avec les fougères, là, aussi.
Oui, oui.
Elle, Geneviève Guilbeault, est rendue ministre des Affaires municipales. Donc, elle aussi, elle va peut-être se pogner avec les maires là-dessus. Elle va peut-être leur dire, on n'a plus d'argent pour vous autres. On n'a pas une scène pour vous autres. Organisez-vous. Ben,
gérez votre fougère. Exact. Gérez votre fougère. Donc, ça va être intéressant. Mais oui, on va regarder, on va continuer de scruter, surtout. Bon, pour l'instant, l'Assemblée nationale ne recommence pas avant le 30 septembre, mais ça va être très intéressant de voir les députés la CAQ, qui vont se faire tout le temps poser des questions. Est-ce que vous avez confiance en François Legault? Est-ce que vous avez confiance en François Legault? Attendez-vous à ce que cette question soit posée souvent à des députés à l'Assemblée nationale.
Bon, les médecins, moyen de pression des médecins. Le Collège des médecins dit, moi, on ne sanctionnera pas nos membres en voulant dire, ben, allez-y, le bar est ouvert, payez-vous à traite. C'est un peu ça ou on va les ramener à l'ordre? Je ne sais pas, hein?
Bien, on va voir. Aujourd'hui, les médecins doivent tenir une sorte de webinaire. Il faut savoir qu'actuellement, bon, le gouvernement a dit qu'ils veulent faire passer la fameuse loi de faire la rémunération. Au début, on parlait de 25 %. On dirait que le gouvernement a mis de l'eau dans son vin à 15 %. Est-ce qu'ils sont en train de négocier? Pour l'instant, c'est très incertain. Les médecins spécialistes ont fait des moyens de pression, d'ailleurs, de réduire ce qu'ils offrent comme formation aux étudiants en médecine ou aux internes. On va voir si ces moyens de pression vont être, un, maintenus ou, deux, accentué, puis il va voir est-ce qu'il y aura des réunions entre la Fédération des médecins et le gouvernement. Il faut savoir maintenant que, bon, tout d'abord, il y a une nouvelle personne au Conseil du Trésor. C'est Mme Duranceau, maintenant, qui est théoriquement en charge de ces négociations.
Ouais.
Et on va voir Christian Dubé dans ses sorties. Est-ce qu'il va avoir plus de pression ou pas? Est-ce que le gouvernement va céder? Puis est-ce qu'on aura une résolution de ce conflit? C'est quand même un gros dossier qui va occuper beaucoup de temps cet automne.
Ouais, puis Legault a dit quand même qu'elle allait serrer à vis, là.
Oui.
Passer ça au baillon, écoute que coûte. Là. Donc, j'ai hâte de voir comment. On est parti de 25 % à 15, puis là, on n'est plus sûr, c'est 15 où on va peut-être abolir ça. La rémunération aussi là, des médecins. J'ai hâte de voir comment tout ça va atterrir. Du côté d'Ottawa aussi, Carney, on nous promet un budget historique le 4 novembre. On parle de 100 milliards possiblement de déficit. Et François-Philippe Champagne nous a dit que ça allait être un budget là, générationnel. On est en train de mettre des nouveaux mots dans le vocabulaire pour nous faire passer la pilule du 100 milliards?
Écoute, moi, j'ai l'impression que François-Philippe Champagne a l'air d'un vendeur d'auto-usagers. Là, ça veut dire, en termes de son discours politique, il faudrait que M. Champagne fasse très attention. Il est quand même ministre des Finances. Là, ça veut dire, normalement, un ministre des Finances, il devrait avoir une certaine forme de sobriété. On se souvient de François-Philippe Champagne qui était excité, le lapin energizer, qui est tout ça, qui était comme au ministère de l'Industrie. Mais moi, j'ai l'impression que le ministère des Finances, là, il faudrait qu'il se calme un peu. Puis faire des grandes phrases comme ça, écoute, je crois pas qu'on est dans le même contexte qu'après la Seconde Guerre mondiale. Oui, on a des difficultés économiques. Il faut arrêter avec, je pense, les hyperboles du ministre des Finances. Actuellement, là, il va falloir qu'il explique très sérieusement l'état des finances publiques. Et ce sera, à mon avis, il devrait avoir un discours beaucoup plus sobre que d'être hypé comme il est actuellement.
Et la rhétorique de guerre, Rodolphe, es-tu d'accord, là? À un moment donné, là, je ne sais pas si tu as entendu l'ambassadeur des États-Unis au Canada qui dit « Tabarouette, là, vous la jouez raide contre nous autres. Vous dites que vous êtes en guerre contre les Américains. Il y a certaines provinces qui ne vendent même plus d'alcool américain. Selon moi, c'est des accros majeurs à des traités de libre-échange. » Mais il va falloir peut-être changer le discours puis peut-être dire finalement, là, les Américains, on règle puis on fait d'autres choses. Là, on repart l'économie. Là.
Ben, je ne sais pas, parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de négocier? Là, on dirait que ces fameux tarifs sur l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre et d'autres, ils vont pas bouger, en tout cas à court terme. Puis ensuite, l'année 2026, on va voir est-ce qu'il y aura renégociation ou pas au début de renégociation avec Kuzma. Il y a quand même une bonne nouvelle, puis moi, faut le souligner. Moi, ça fait longtemps que je dis comment ça se fait qu'on ne parle pas plus aux Mexicains, parce qu'il faut se souvenir que l'accord de libre-échange avec les États-Unis, ça inclut aussi le Mexique. Moi, je trouvais qu'on ne parlait pas, en tout cas, aux Mexicains. Monsieur Carney est allé cette semaine au Mexique ou la semaine dernière. Je pense que ça, c'est une bonne nouvelle, parce que je pense que le gros enjeu en 2026, c'est quelle va être la stratégie de négociation, non seulement avec les États-Unis, mais est-ce que le Canada et le Mexique vont aussi avoir une stratégie commune de négociation pour l'instant à suivre.
Oui, à suivre. Et dernier dossier qu'on va jaser aujourd'hui, ça clique, Carl Malenfant, qui depuis plusieurs jours là, se fait bombarder de questions et de scénarios devant lui. C'est quoi la suite? Parce que là, ce qu'on comprend, c'est qu'on a morcelé ce contrat-là là, pour le passer aux élections de 2022. Carl Malenfant aussi, son avocat, ça a levé le ton avec Jean-François Bertrand aussi et M. Galland.
Oui, mais en tout cas, il faut lui donner à monsieur le procureur. Qu'est-ce qu'il est patient? Je ne sais pas s'il y a des enfants, mais qu'est-ce qu'il est patient? Parce que moi, je me serais énervé. Je ne sais pas combien de fois j'écoute religieusement la commission. C'est long, ces réponses. Écoute, tu passes par 14 chemins. Au bout d'un moment, là, c'est une question précise et ça passe. Puis avec beaucoup, beaucoup de petites anecdotes sur le côté, oui, c'est laborieux, c'est fatigant son témoignage en termes d'on n'arrive pas à avoir des réponses claires et précises. Je pense que oui, le commissaire a perdu plusieurs fois son calme et sa patience. Le procureur, bravo en tout cas de rester comme ça puis de garder son calme. Pour l'instant, on n'a toujours pas des réponses, mais il y a une chose que on a vu, c'est que oui, Carl Malenfant a été au moins contredit une fois sur les appels d'offres. Il disait qu'il les avait jamais vus, puis ensuite on a vu qu'il les avait et tout ça. Donc il y a beaucoup de trous maintenant dans son témoignage. Ouais. On va continuer. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'on va réussir à avoir un rapport en décembre? J'ai l'impression que ça prend beaucoup, beaucoup de temps, ce témoignage. Je ne sais pas si on avait prévu autant de temps pour le témoignage de Carl Malenfant, puis surtout toute l'analyse des données.
Oui, puis tu sais, c'est quand même... une commission qui va émettre un rapport, mais ça va être des suggestions. Hein. Ça, y aura pas de, on ne pointera pas du doigt là, des coupables potentiels. S'il y a des coupables potentiels de malversation, ça sera à la police de déposer des accusations. Hein. C'est ça qu'on comprend.
Oui, l'UPAC. L'UPAC enquête. On ne sait pas aussi qu'est-ce qui se passe avec l'UPAC. Donc ça aussi, c'est quelque chose à suivre. Est-ce qu'on irait essayer de récupérer de l'argent? Moi, c'est une question que je me pose. L'argent qu'on a payé,
ouais.
Est-ce qu'il y a eu une malversation? Est-ce qu'on va essayer de récupérer l'argent? Est-ce qu'on va poursuivre ces firmes, etc.? On va voir.
À suivre. Merci beaucoup, Rodolphe. À la prochaine.
À bientôt, Pierre.
Salut,
merci.
Bye-bye. Voilà, Rodolphe Ozny, notre chroniqueur politique.
Ouais.
L'histoire de mal enfant, c'est parce que là, à un moment donné, hey, c'est, moi, il est patient, là.
Ben oui, je sais.
Monsieur Galland et le procureur qui est là, il y a un autre procureur qui pose des questions. Très patient, parce que, écoute, c'est des...
Il répond ce fleuve.
Ah, écoute, le gars, il se perd dans ses explications.
Ben oui.
Là, il rajoute toujours des petites
Des affaires. Hein.
Des petits cues personnels avec Mado et Loulou. Là. Fait que c'est...
Loulou.
Mais c'est ça. C'est, là, on a une image de la SAC et des gens qui y travaillaient. Là. Et
ben
haut gradé.
Ça nous démontre pourquoi il y a des dépassements de coûts, pourquoi peut-être certaines personnes dirigeantes n'avaient aucune idée de ce qui se passait.
Exact. Des fois, on pense que c'est des personnes avec des QI très élevés. Là. Je dis pas qu'il n'y a pas de QI très élevé dans le cas de M. Malenfant. Mais beaucoup de comment t'appelles ça, de gens qui se fient à leur flair.
Ah oui, oui.
En tout cas, il avait l'air à se fier à son flair, pas mal.
En effet.
Voilà. On ouvre les lignes.
Oui.
Après la pause.
Tout à fait. 88-670-9098. Il y a deux choses que je vous ai vues réagir fortement en début d'émission. Première chose, l'espèce de boycott là, concernant les produits américains. C'est-tu assez, ça?
Oui. Là, la SAQ qui refuse de vendre toute bouteille de vin des États-Unis. Là, à un moment donné, là, il va falloir passer à autre chose. Là.
Mais on fait une campagne et on dépense de l'argent pour dire aux Américains, venez chez nous.
Mais imagine-tu l'hypocrisie? Venez. Si, mettons, là, demain matin, dans les médias américains, là, on joue comme nous autres, on l'a joué contre les Américains, là, puis qu'ils appellent le boycott de tous les produits canadiens aux États-Unis, on est mort, là.
Ben voyons.
C'est fini, on est mort, là. C'est terminé, là. On se fait écraser, là. Là, à un moment donné, il va falloir revenir sur la réalité, là. Un, puis deux... TGV, croyez-vous?
Ben oui, ça vous a fait réagir aussi. Croyez-vous à ça?
Oui, dans le délai et surtout...
On a-tu besoin de ça?
On est rendu à 120 milliards.
Voyons donc.
Parce que quand il y a des fourchettes, vous preniez la fourchette supérieure. Hein? J'ai pas vu un projet, moi, qui arrive dans la fourchette inférieure.
Là. Non, jamais. Là, on est passement de coups dans tout.
Les CBC parlent, ils ont parlé avec des spécialistes.
Ah oui, oui.
Et les autres parlent de 120 milliards.
D'ici le début des travaux, d'ici 2030...
Ouais,
ben, hâte de voir.
On parle d'un projet terminé en 2045.
Ouais, il voit ça. 88-670-9098.
On revient après la pause.
Couture dans le mid. Radio. X.